Vous écoutez
100 ans d'histoire. La contribution des femmes canadiennes. Une série de capsules historiques relatant les faits de la place des femmes
dans leur avancement économique et social au pays. Le cheminement de la communauté canadienne au cours des 100 dernières années. Écoutez votre radio pour en savoir plus sur la place des femmes au Canada.
100 ans d'histoire.
Le projet Cap Ouest, rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds canadien des radios communautaires, vous est présenté par les stations
CFRG 93.1 FM, La Voix des Prairies, Gravelbourg. CHPL 92.1 FM, Lamondon. CIBR Radio Taïga 103.5 Yellowknife.
Et CILS 107.9 FM, Victoria.
Bonjour chez vous, dans les prairies, en Saskatchewan et dans l'Ouest, en Alberta, dans les territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. Bienvenue dans Sport et Santé Magazine. La revue de presse sportive fera la part belle cette semaine, vous l'aurez deviné, à Équipe Canada, gagnante de la Coupe du Monde de hockey 2016. Dans la portion sport de l'émission toujours, on parlera encore de hockey, cette fois de hockey professionnel, avec Joseph qui nous fera part de ses prédictions sur la saison du Canadien de Montréal qui est sur le point de débuter. Après la revue de presse Santé, dans laquelle il sera notamment question de la victoire remportée contre la rougeole sur le continent américain, je rejoindrai la diététiste Claudia Lemay qui nous parlera de son travail, de sa clientèle et de son livre pour enfants « Carambole, la fée des aliments ». Bonne émission à tous. Vous êtes dans Sport et Santé Magazine, merci de votre fidélité à l'émission. Le botté d'envoi revient au journal des sports comme chaque semaine. Et notre revue de presse est bien sûr dominée par la Coupe du Monde de hockey remportée par Équipe Canada. Le Canada maintient sa domination à l'échelle mondiale. Le sport national du Canada affiche son excellence comme jamais. Brad Marchand a couronné une remontée spectaculaire et le Canada a gagné la Coupe du Monde de hockey pour une deuxième fois de suite. Brad Marchand a battu Yaroslav Halak en infériorité numérique avec seulement 43 secondes à faire au temps réglementaire jeudi 29 septembre, propulsant ainsi le Canada vers une victoire de 2-1 contre Équipe Europe. Le but de Brad Marchand est survenu un peu plus de 2 minutes après que Patrice Bergeron eut créé l'égalité en avantage numérique. C'est un rêve qui se réalise et je vais chérir chaque seconde de ce tournoi pour le reste de ma vie, a affirmé Brad Marchand. Le Canada avait gagné le premier match de la finale au meilleur de 3 par le pointage de 3-1, mardi 27 septembre. Il s'agit d'une 16e victoire de suite pour le Canada dans un tournoi majeur. Le gardien de but, Carey Price, a eu son mot à dire avec 32 arrêts. Sidney Crosby, le capitaine, a été nommé joueur par excellence du tournoi. Il a accumulé 3 buts et 7 aides en 6 matchs. C'est tout simplement fou la façon dont tout est tombé en place, a exprimé Crosby. Quand tu te fais prendre en défaut si tard dans la rencontre, tu ne souhaites que te rendre en prolongation. Ensuite, Marchand s'amène et il marque un but de la sorte. C'est un sentiment assez incroyable si on considère tout le travail accompli pour obtenir des chances de marquer ce soir. Ça n'a pas été facile. C'est Zdeno Chara qui avait marqué l'unique but d'équipe Europe en première période du match. Le gardien Jaroslav Halak semblait être en mesure de s'occuper du reste, mais Bergeron l'a finalement déjoué avec seulement 2 minutes 53 à faire au compteur en troisième période. Halak a terminé le match avec 32 arrêts à sa fiche. Jaroslav Halak est passé près de signer le premier jeu blanc contre le Canada dans un tournoi regroupant les meilleurs joueurs au monde depuis les quarts de finale des Jeux olympiques de Turin en 2006. Comme lors du premier match, équipe Europe a trouvé le moyen de sortir le Canada de sa zone de confort pendant de longs moments jeudi lors du match du deuxième match. Le Canada a décoché son premier tir vers Halak après près de 6 minutes de jeu et 27 secondes plus tard, c'est Zdeno Chara qui a quitté son poste à la pointe pour accepter une remise d'Andrei Sequeira et battre Carey Price du côté de la mitaine. Brad Marchand devient ainsi le héros de cette victoire. C'était seulement la troisième fois que le Canada se retrouvait devant un déficit depuis le début du tournoi 2016. Les deux premières fois, les Canadiens avaient répliqué 89 secondes plus tard face aux États-Unis et 72 secondes plus tard contre la Russie. Le Canada a accumulé les erreurs et équipe Europe a pu monter deux attaques très dangereuses en infériorité numérique en première période. Le gardien Carey Price a toutefois résisté. Équipe Canada a rarement appliqué de la pression sur la défensive européenne pendant les 40 premières minutes de jeu. Un avantage numérique tôt en deuxième période a semblé redonner de l'énergie au Canada. John Tavares a obtenu la meilleure chance, mais son tir a atteint le poteau alors que Jaroslav Halak était hors position. Pendant ce temps, Carey Price a gardé le Canada dans le match en frustrant Thomas Vanek après une mise en scène du joueur Anze Kopitar. Brad Marchand a été le meilleur buteur du tournoi avec 5 buts. Le Canada est invaincu dans un tournoi majeur depuis le tour préliminaire des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, depuis plus de 6 ans. On a un commentaire du chroniqueur François Gagnon sur le portail rds.ca. Alors, je vous lis quelques passages de son analyse de cette Coupe du Monde et spécialement de son analyse du deuxième match de la finale 2-3. Comme s'ils craignaient que leur titre de champion de la Coupe du Monde 2016 ne perde de son lustre parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, les joueurs du Canada se sont compliqué la vie et comment. Alors, François Gagnon, comme l'article dont je viens de vous lire des passages, rappelle que le Canada a vraiment tiré de l'arrière sur le plan de la créativité de jeu, sur le plan du momentum, mais il a quand même réussi à gagner. On a dans ce texte signé François Gagnon quelques citations de l'entraîneur Mike Babcock. Je vous en lis quelques-unes. La première concerne le joueur Brad Marchand, que plusieurs connaissent dans la Ligue nationale de hockey, et les partisans du Canadien en particulier ne le portent pas dans leur cœur, mais il se rachète, si vous voulez, dans Équipe Canada, puisqu'il a brillé au cours du tournoi. Donc Mike Babcock commente à propos de Brad Marchand: il demeurera toujours une peste, mais c'est aussi un excellent joueur de hockey, a-t-il mentionné. Lorsqu'on lui a demandé si Brad Marchand profiterait d'une amnistie pan-canadienne pour le reste de sa carrière, Babcock s'est ensuite assuré de remettre les pendules à l'heure avec tous ceux, et ils sont nombreux, qui minimisaient la portée des victoires de son équipe en raison du manque d'opposition déploré depuis le début du tournoi. J'espère que vous avez réalisé, a dit Babcock, qu'on affrontait vraiment une bonne équipe en finale. J'espère que vous avez réalisé que cette équipe était composée de joueurs qui sont très bons dans la Ligue nationale de hockey. Ils nous ont donné beaucoup de difficultés, mais c'est quand les choses se corsent que les grands joueurs se distinguent, qu'ils livrent la marchandise et qu'ils gagnent. Et ce soir, nos gars ont livré la marchandise, a fièrement déclaré Mike Babcock lors de son point de presse. Mike Babcock, qui s'est contenté du dernier rang dans la LNH l'an dernier à sa première saison à la barre des Maple Leafs de Toronto, ajoute une Coupe du Monde à ses médailles d'or olympiques et ses médailles d'or en championnat du monde senior et junior. Et bien sûr, il ajoute aussi ce championnat à sa Coupe Stanley. Donc, une carrière marquée par de belles victoires pour Mike Babcock, qui n'est pas prêt, dit-il un peu partout dans les médias, de prendre sa retraite. Donc voilà pour la Coupe du Monde de hockey. Le Canada est champion et il demeure invaincu depuis Vancouver 2010. On passe rapidement sur d'autres nouvelles dans le monde du sport. Le Grand Prix du Canada nous apprend RDS, donc le Grand Prix de Formule 1 ne serait plus en danger. C'est le Journal de Montréal en fait qui l'a annoncé. Une entente de principe serait survenue entre le maire de Montréal, Denis Coderre, et le grand patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone. Autrement, je vous signale cette fiche du joueur Félix Auger-Aliassime. C'est un joueur de tennis de seulement 16 ans. C'est un Canadien, un Montréalais de seulement 16 ans. Il brille déjà très haut dans le palmarès du tennis. Il a gagné le US Open il y a quelques semaines à New York. Il est champion junior en simple de l'US Open. Il a été finaliste à Roland-Garros cette année. Il est champion junior en double avec son collègue Denis Shapovalov et ça continue. Donc l'actualité.com dans sa section sport consacre un beau portrait au jeune Félix Auger-Aliassime. Si vous voulez faire le point et connaître le profil de ce jeune Montréalais qui est promis au plus grand succès dans le monde du tennis, il y a un excellent commentaire d'internaute sous cette fiche qui détaille tous les succès qu'a remporté le jeune Auger-Aliassime. Ce commentaire se lit ainsi: il a le talent. Le saut chez les professionnels requiert un travail énorme et constant. Tout repose sur son entourage. S'il est pris en charge par un coach sérieux et équilibré, il apprendra à connaître ses limites et à développer une maturité de fond. Il se méfiera autant de la victoire que de la défaite. Voilà pour le petit tour d'horizon, largement dominé par la Coupe du Monde de hockey 2016, remportée par le Canada. On va faire une petite pause musicale. On écoute une pièce qui s'intitule « Tout seul à la maison ». C'est de l'artiste Bayarge. Et l'émission se poursuit dans quelques minutes. Restez à l'écoute. On va parler de hockey, mais cette fois de hockey de la LNH, avec Joseph, un collègue franco-albertain ici à CILS-FM. On va faire des pronostics sur la saison 2016-2017 du club de hockey canadien, donc les Canadiens de Montréal qui comptent de nombreux fans ici dans l'Ouest canadien. On va essayer de voir où s'en va le Canadien cette année, s'ils ont des chances d'aller très loin. Restez à l'écoute.
Pendant que toi, mon amour, tu travailles fort dans le jour, puis que les petits sont à garderie, tu vas me dire que c'est con. Moi, je trouve le temps long, tout seul à la maison. Je sais, ça t'attriste. Y'a plein d'affaires à faire que t'as mis sur ma liste. Mais je m'y prends à l'envers, moi, je suis juste un artiste. J'essaye d'en faire plus, mais ta liste me fait peur comme si c'était de l'herbe à puce. Donc je perds des heures juste pour une petite gégus. Pendant que tout mon amour, tu travailles fort dans le jour, puis que les petits sont ta garderie. T'as raison, c'est con, moi je trouve le temps long. Ont déjà fait un carnage. Le soir, c'est sûr, je te colle trop. Toi, t'as ta journée dans le corps, moi, j'ai ton corps dans la peau. Je m'ai rêvé encore aujourd'hui plus qu'il faut. Et quand les journées sont rough, t'arrives plus à mettre la switch à off. Si me reste l'énergie pour
faire toutes les niaiseries qui rechargent tes batteries. C'est que pendant que toi c'est quand moi je trouve le temps long de seul à maison.
Vous êtes dans Sport et Santé Magazine. Merci d'être à l'écoute encore cette semaine. On a un sujet sportif pour vous que plusieurs auditeurs vont adorer. Le club canadien de Montréal est très aimé partout au Canada. C'est la franchise la plus connue dans le monde du hockey sur la planète. J'ai avec moi l'expert incontesté en matière de hockey ici à la station CILS-FM à Victoria. Bonjour Joseph.
Bonjour Alexis.
Alors on va parler du Canadien. On est à la veille de la nouvelle saison, donc la saison 2016-2017 va commencer dans quelques semaines.
Oui, oui, c'est plus tard cette année à cause de la Coupe du monde de hockey.
Alors ma première question, puisque le temps nous est compté, est-ce que le Canadien a de bonnes chances d'aller loin en série cette année, selon toi?
Ça dépend. Ça dépend sur Carey Price. Carey Price, à date, à la Coupe du monde, il est knockout. Ça fait, je pense, 14 games qu'il n'a pas perdu international. Fait que c'est très bon, puis il est en bonne santé. À chaque fois qu'il se fait frapper, par contre, tous les auditeurs du Canadien de Montréal, ils comme...
Oui.
Ouais. Fait que, non, ça a l'air bon pour cette année. On a un nouveau entraîneur avec Kirk Muller, un cool entraîneur. Fait que maintenant... Michel Therrien va avoir quelqu'un un petit peu qui a besoin d'écouter. Puis ça va être quelque chose à suivre. Puis ça va aussi être intéressant à suivre comment longtemps. Comment longtemps que Michel Therrien va rester à Montréal. Oui. Si Montréal commence avec 0 en 5, y a-t-il une chance que Michel Therrien se fait couper puis que Kirk Muller devienne entraîneur-chef du Canadien de Montréal? Je pense que oui.
Il faut dire que Kirk Muller, c'est un retour pour lui. Il avait été au sein de l'organisation pendant quelques années. Donc, il effectue un retour dans le rôle qu'il occupait avant.
Oui, c'est ça? Oui. Puis il était assistant avant, dans sa première tournée. Puis aussi, il est allé en Caroline. Puis ça n'a pas fonctionné excellent en Caroline. Mais en Caroline, c'était un différent club d'hockey complètement. C'est un club qui était excellent. Puis maintenant, il commence à... Montréal est tout le temps un contendeur pour la Coupe Stanley. Le monde de Montréal ne veut rien de moins qu'au moins se rendre au final. Ou même pas au final, mais rien qu'il se rende. Fait que ça va être vraiment à suivre. Kirk Murray était très aimé durant tout son temps à Montréal. Il était capitaine quand il jouait pour l'équipe. Puis aussi, il était assistant coach, puis tous les joueurs l'adoraient.
Moi, j'ai une question à propos de Kirk Muller. C'est un unilingue anglophone, donc il n'a pratiquement aucune chance d'être nommé à ce poste. Il faut qu'il puisse interagir avec les partisans et les médias du Québec.
Oui.
C'est une condition sine qua non. C'est comme avoir un unilingue francophone à Toronto. C'est impossible. C'est pas impossible.
Oui,
c'est déjà arrivé.
C'est impossible parce qu'on a les deux adjoints de Kirk Muller, ils seraient sur Twitter des francophones. Puis à un certain point, c'est pas que tu te demandes, c'est où est-ce que tu mets l'équipe par-dessus la langue. Puis pas rien que ça, mais aussi comme Mike Babcock. Moi, je l'appellerais Michel Babcock, puis je le traiterais comme un français s'il viendrait à Montréal. Parce que c'est beaucoup, les entraîneurs francophones, c'est pas qu'il n'en a pas, mais c'est que tu veux le meilleur entraîneur pour ton équipe. Moi, je veux le meilleur coach pour mon équipe. Puis comme la même affaire que je veux le meilleur...
C'est un autre débat. C'est un débat super intéressant. Mais je pense que les partisans ont besoin d'un rapport. Un rapport émotif.
Oui.
Mais on pourra y revenir. Tu sais que les Alouettes viennent de nommer leur premier coach québécois depuis 62 ans.
Non,
je sais pas si t'étais au courant. Pendant 62 ans, ils ont eu des coachs anglophones. Et je pense que c'est le premier qui est capable de parler en français. Mais ça, les Alouettes, c'est un autre dossier.
Les Alouettes, c'est un autre dossier au complet, mais je suis très excité. J'ai pas vu la nouvelle. Je suis les Alouettes très, très prochainement. Puis okay. Jim Pop, ça fait des semaines que je lui envoie des tweets de ce qu'on j'ai dit, puis dans lequel j'ai un entraîneur-chef. Fait que c'est intéressant qu'il l'a fait en mi-chemin au travers de la saison.
Oui, oui, oui. OK.
Ça doit être mes tweets.
Oui, c'est sûrement ça, Joseph.
Ouais.
Donc, tu me dis que si Carey Price est en forme, on va très loin en série.
Absolument. Et Carey Price, tu es le meilleur gardien au monde.
Voilà.
Sans équivoque. Tu l'as vu dans toutes les compétitions internationales, puis tu le vois encore dans la Coupe du monde d'hockey, puis tu l'as vu quand Carey Price s'est fait mal. Il s'est blessé la semaine passée.
L'année dernière.
Mm-hmm. On était comme 9-0.
Voilà.
C'est Carey Price s'est blessé, puis on s'est pas rendu en finale. Fait.
Oui, le début de saison 2015.
Foudroyant,
c'est le mot, absolument. Ouais. Et la fin a été catastrophique. Donc, effectivement, on dirait que Carey Price est le pilier de cette équipe-là. Est-ce qu'il y a d'autres bons éléments dans l'équipe, selon toi?
Des bons éléments dans l'équipe. Oui, on a engagé beaucoup de monde durant l'été, ce qui vont être des très bonnes acquisitions, dans mon opinion. Andrew Shaw, le monde, ils ont été négatifs quand il est venu avec l'équipe, parce que il n'est pas un compteur fin, mais ce qu'il apporte à Montréal, c'est la même affaire que Brendan Gallagher il apporte. Puis c'est la même raison pourquoi le monde adore Gallagher, le monde va adorer Andrew Shaw. Il n'a pas de l'énergie, il est un spark plug. T'as Radulov, qui a été cherché.
Ouais.
Par, je pense que c'était 17 équipes dans la Ligue nationale, puis il a choisi Montréal parce qu'il pensait que Montréal avait une chance. C'est un fin tireur avec un problème d'attitude, mais apparemment, il est devenu plus vieux, puis avec son âge, il y a un petit peu plus de wisdom, de sagesse.
Ouais, c'est calmer un peu les ménages.
Ouais.
Excellent.
Puis après ça, il y a Galax Galchenyuk, qui est déjà sur l'équipe.
Oui.
Il y a eu vraiment son éclosion l'année passée. Ça fait des années que les fans, on attend de voir c'est quoi que Galchenyuk peut faire. Puis à chaque fois qu'il faisait une bonne performance, c'est sur une troisième ligne. Puis maintenant, il s'est confirmé. Il commence l'année, premier centre du Canadien de Montréal, 45 buts. Ça, c'est ma prédiction.
45 buts pour Galchenyuk dans la nouvelle Ligue nationale de 2016. OK.
Oui.
C'est vraiment une performance digne de Crosby.
Oui, il était deuxième choix en 2014, je pense, 2014 ou 2015. Puis 2014, définitivement.
Mm-hmm.
Puis la personne qui est allée en premier, c'était Neil Yakupov. Puis Yakupov, il n'a jamais été le choix de première ronde qu'il a besoin. Puis il y a beaucoup de monde qui pensait que Galchenyuk allait en premier. Il s'est fait mal au genou. Fait qu'il a baissé assez pour que Montréal il le cherche. Il est un joueur, il est un first-round draft pick.
Ouais.
Il est un elite center, le centre pour le Canadien de Montréal. Puis il va avoir beaucoup de buts. Puis il a compté 30 buts l'année passée sur la troisième ligne.
OK, ben c'est très prometteur. Et la situation des capitaines en terminant. Je dis déjà les capitaines parce que dans ma tête, on dirait qu'il y a deux capitaines dans le Canadien de Montréal avec l'arrivée de Shea Weber.
Oui. Dans mon opinion, il y a deux capitaines. Il y a Carey Price et il y a Shea Weber.
OK, donc tu écartes Pacioretty déjà.
Oui, les joueurs ils ont voté pour Pacioretty, mais quand ils ont fait le vote, ils étaient en train de voter pour the better of two evils. Le meilleur de deux mauvaises options, c'était soit Subban ou Pacioretty. Pacioretty, il était pas prêt, mais la chambre, clairement, n'aimait pas Subban tellement, parce qu'il s'est fait échanger pour cette raison-là. C'est pas à cause de sa performance sur la glace, c'est à cause des problèmes personnels.
D'accord.
Puis Max Pacioretty, l'année passée, durant l'adversité, il a jamais montré d'émotion. Brian Gallagher, c'est un capitaine. Il est né capitaine. Il a l'attitude de capitaine. Ouais. Il se fait compter des buts. Fait qu'il va sortir, il va se faire varger avec des coups de bâton puis des rondelles. Puis il va sortir puis rentrer pour un autre chef dans 15 secondes, prêt pour y aller. Max Pacioretty, quand l'adversité vient, il se cache. Puis
c'est pas un guerrier.
Non.
Comme on dit dans les milieux sportifs. OK, donc Shea Weber, Gallagher, Price, Pacioretty. On dirait qu'on est rendu à 4 capitaines.
Oui. Pacioretty, on l'autre. Gallagher va être notre capitaine quand il a 27 ans. 20 ans. Well, Weber, il n'y a pas longtemps.
Donc, dans quelques années.
Il ne reste plus longtemps dans la Ligue nationale, right?
10
ans maximum. Maximum. Ça, c'est un gros 10 ans.
Mm-hmm.
Fait que Carey Price, tu ne peux pas avoir de C. sur un gardien de but.
C'est du jamais vu ou presque.
Non, c'est difficile parce que quand il y a des revues à faire, il y aurait besoin d'aller à milieu de la patinoire puis parler au ref. Puis seeing, voilà. Tu le vois jamais. Mais tout le monde dans la chambre sait que le vrai c'est Carey Price. Mm. Parce que c'est lui qui, quand tout le monde s'excite trop, c'est lui qui calme la situation. Il est excellent. Puis il a le même style personnel que Shea Weber. C'est pour ça que je pense que Shea Weber va être un excellent capitaine quand il reçoit le C.
Oui, mais ça va être une humiliation pour Pacioretty, donc il va forcément y avoir un échange.
Échange. Moi, je dirais que ça va être un échange. Okay. Moi, dans mon opinion, Pacioretty finit pas son année avec le Canadien de Montréal. On l'a pour 3,25 millions de dollars, qui est pratiquement donné pour sa production. Mais je pense que s'il est sur une année de contrat, soit cette année ou l'année prochaine, je te garantis qu'il ne va pas y charger 3,25 millions. Puis on ne veut pas l'avoir pour 7-8 millions personnellement, parce qu'on a tellement de bons joueurs dans notre équipe à Laval,
ouais,
que qu'on n'a pas besoin de 30 buts par année. Je ne veux jamais dire qu'on n'a pas besoin de buts par année. Mais on a de la relève qui s'en vient.
Donc si on est 0-5 en début d'année, à l'image de la fin de saison,
ouais,
on va peut-être perdre notre entraîneur et notre capitaine.
Oui, ce ne seraient pas des lourdes pertes, personnellement,
ouais,
mais ce serait des pertes quand même. Mais je pense que l'équipe a quand même besoin d'une transition de quelle sorte, parce qu'on est allé chercher du talent, mais ce qui est arrivé l'année passée, ce n'est pas quelque chose que les joueurs oublient souvent. Fait que on a besoin d'avoir des joueurs qui vont se présenter et qui vont se foncer. Durant le tournoi du monde, Pacioretty, il était sur la quatrième ligne pendant une couple de games.
Oui, you know, oui. C'est
pas un combattant, comme tu dis, un guerrier. C'est...
Il s'est pas illustré. Non. OK, à suivre. On a défoncé le temps qui nous était imparti. C'est pas grave, on va peut-être le passer en deux segments. On parlait bien sûr du Canadien de Montréal, vous aurez tout compris. Merci Joseph pour tes pronostics et tes évaluations en vue de la saison 2016-2017. Oui, déjà 2017.
Ça sent la coupe, Alexis.
Ça sent la coupe.
45
merci.
Buts, Alex Galchenyuk.
OK, on va retenir ça.
Bye.
Yeah.
Les Trois Accords avec leur pièce « J'ai pile ton nom » dans l'émission Sport et Santé Magazine. Merci d'être à l'écoute. On ouvre maintenant le chapitre santé et mieux-être de l'émission. Avant de passer à l'interview de la diététiste Claudia Lemay, on passe en revue les actualités des derniers jours. On parle tout d'abord d'un article faisant état de santé mère et enfant. On parle d'accouchement en particulier. Il est plus risqué d'accoucher en milieu rural au Canada. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs de cette étude publiée par le Canadian Medical Association Journal, le CMAJ. Les chercheurs ont trouvé que les femmes en milieu rural avaient deux fois plus de risques de souffrir de maladies potentiellement mortelles comme l'éclampsie ou une rupture utérine que leurs homologues vivant en milieu urbain. L'éclampsie, entre parenthèses, ce sont des convulsions répétées survenant pendant les derniers mois de la grossesse, pendant l'accouchement ou après. Le risque deux fois plus élevé d'éclampsie est particulièrement inquiétant parce que les taux de pré-éclampsie étaient similaires dans les deux groupes, ont écrit les auteurs de cette étude. Le manque de suivi médical approprié ou d'accès à des soins obstétriques avancés en temps opportun a pu contribuer à des taux plus élevés dans le groupe rural, ont-ils fait valoir. La morbidité maternelle grave à l'accouchement est rare au Canada. Cependant, nous avons trouvé que certaines complications sérieuses telles que l'éclampsie et l'embolie pulmonaire obstétrique étaient plus communes parmi les femmes vivant en milieu rural. C'est une citation de la docteure Sarka Lysenkova, qui est chercheure à l'Université de la Colombie-Britannique, UBC. On parle maintenant d'acné. C'est un problème qu'on connaît à l'adolescence et même parfois à l'âge adulte. La peau des personnes ayant souffert d'acné au cours de leur vie vieillirait plus lentement, selon une étude. C'est rapporté par le Journal de Montréal ces derniers jours. Si l'acné vous a fait la vie dure durant votre adolescence, sachez que le karma existe. Une nouvelle étude du King's College de Londres suggère que les gens ayant souffert d'acné au cours de leur vie ont tendance à garder une apparence jeune plus longtemps en raison du ralentissement du vieillissement cutané. Les experts croient que les gens souffrant d'acné ont développé une certaine protection contre le vieillissement, ce qui retarde l'amincissement de la peau et l'apparition des rides. Les chercheurs qui ont réalisé cette étude auprès de 1205 jumelles se sont intéressés aux globules blancs de leurs sujets. Les scientifiques ont constaté que les globules de celles ayant souffert d'acné avaient plus de capuchons de protection sur les extrémités de leurs chromosomes, soit des brins d'ADN codés avec des gènes. Ces capuchons, appelés télomères, peuvent être comparés aux embouts de plastique placés aux extrémités des lacets, ce qui les empêche de s'effilocher. On parle maintenant de dépendance au téléphone cellulaire. C'est un mal qui atteint plusieurs propriétaires de téléphones cellulaires et nombreux sont ceux qui vivent dans le déni. Cet article donc paraît dans le Journal de Montréal. L'université de Northwestern en Angleterre a révélé que les gens qui utilisent trop leur téléphone intelligent ont plus de chances de devenir dépressifs, et ce, peu importe ce qu'ils font sur leur cellulaire pendant cette durée. Dans cette étude, on apprend que les gens dépressifs utilisent leur cellulaire trois fois plus que quelqu'un qui ne l'est pas. Et tenez-vous bien, un humain adulte normal anglais utilise son cellulaire l'équivalent du tiers de sa journée, donc environ 5 heures par jour, et regarde son cellulaire environ 85 fois par jour. Bien que l'étude se soit déroulée en Angleterre, nous pouvons penser que la relation à notre cellulaire, ici en Amérique du Nord, est semblable. De plus, ce 5 heures par jour correspond au double du temps que nous pensons avoir passé sur notre cellulaire. Autrement dit, on vit dans le déni, comme je vous le disais un petit peu plus haut. La même étude révèle aussi qu'un adulte sur trois, âgé de 18 ans à 24 ans, est tellement accro à son téléphone cellulaire qu'il le regarde même durant la nuit. Les spécialistes du sommeil s'entendent tous pour dire que regarder son cellulaire la nuit est dangereux pour la santé. Pourquoi? La lumière bleue qui est présente dans l'écran du cellulaire a le même effet sur le corps que la lumière du jour, donc lui indique qu'il est temps de se lever, que le jour est arrivé. Cette même lumière bleue troublerait le cycle de sommeil, et ce jusqu'à 3 heures durant. Je vous parle d'une excellente nouvelle concernant la rougeole. Le continent américain est déclaré exempt de la rougeole. Le continent américain, donc l'Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, est la première région dans le monde à être déclarée exempte de la rougeole, une maladie virale qui était l'une des causes importantes de mortalité des jeunes enfants. Cette annonce a été faite par l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS. La rougeole, responsable de complications graves, devient ainsi la cinquième maladie infectieuse pouvant être prévenue par un vaccin à avoir été éliminée sur le continent américain après l'éradication dans cette région de la variole en 1971, de la poliomyélite en 1994 et finalement de la rubéole l'année dernière en 2015. Ce succès sanitaire couronne plus de 20 ans d'efforts dans le cadre d'une vaste campagne de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole sur l'ensemble des pays américains. C'est le résultat d'un engagement pris il y a plus de deux décennies, en 1994, quand les pays des Amériques se sont engagés à mettre fin à la rougeole au début du 21e siècle, a souligné Carissa Etienne, directrice de l'OPS, une organisation qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Je vous parle à présent de cette avancée. Je ne sais pas si on peut parler d'avancée, puisqu'il y a quand même des questions éthiques à soulever. Quoi qu'il en soit, le premier bébé conçu grâce à une nouvelle technique expérimentale controversée consistant à utiliser l'ADN de deux femmes dans l'embryon pour éviter la transmission d'une maladie héréditaire maternelle est né en avril. Donc ce bébé est né en avril, a annoncé l'American Society for Reproductive Medicine. Et c'est une annonce qui a suscité des réactions mitigées. Donc c'est un bébé à trois parents, vous l'aurez compris. C'est dans tous les médias cette semaine. Le papier de la presse est très instructif. Vous le trouverez dans la section science du portail lapresse.ca. Je vous parle maintenant d'une nouvelle concernant la circulation sanguine des vaisseaux sanguins artificiels développés sur des agneaux par bio-ingénierie. Des chercheurs ont réussi à développer des vaisseaux sanguins artificiels sur des agneaux grâce à une technique d'ingénierie du vivant qui pourrait un jour être utilisé chez des enfants souffrant de certaines malformations cardiaques congénitales. Ces enfants doivent souvent subir plusieurs opérations à cœur ouvert au cours desquelles les chirurgiens sont amenés à remplacer des vaisseaux sanguins synthétiques incapables de se développer ou de se régénérer. Les chercheurs, qui étaient dirigés par le chercheur Robert Tranquillo de l'Université du Minnesota, ont réussi à développer des vaisseaux artificiels chez les trois agneaux en plaçant des cellules de peau de mouton dans une éprouvette et en leur donnant des nutriments nécessaires à leur croissance. En utilisant cette technique chez l'être humain, il serait peut-être possible d'éviter les interventions chirurgicales répétées chez les enfants souffrant de malformations cardiaques comme la tétralogie de Fallot, qui est une malformation complexe également connue sous le nom de maladie bleue, a expliqué le chercheur Robert Tranquillo dans la revue Nature Communication. Voilà qui conclut cette livraison de nouvelles santé et mieux-être pour cette semaine. On effectue une courte pause musicale et je retrouve au bout du fil dans quelques instants pour l'interview santé de la semaine, la diététiste britanno-colombienne Claudia Lemay, qui nous parlera de son métier, de sa clientèle et aussi de son livre pour enfants, un livre qu'elle a publié récemment qui s'intitule « Carambole, la fée des aliments ». À tout de suite. Sport et Santé Magazine, merci d'être à l'écoute encore cette semaine. On aborde à présent le créneau de l'interview. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Claudia Lemay, qui est diététiste dans la région de Vancouver, dans le sud de la Colombie-Britannique. Bonjour Claudia.
Bonjour. Bonjour Alexis, comment ça va?
Ça va très bien, merci d'accepter l'invitation. Donc aujourd'hui on parle de diététique, c'est la profession que tu exerces. Je commencerai peut-être par te demander une question d'amateur, si tu veux, de néophyte, moi qui ne connais pas très bien encore les termes. Quelle est la différence entre la diététique, les diététistes autrement dit, et les nutritionnistes?
OK, c'est une question qui peut être courte ou longue, je vais essayer de y aller le plus rapidement possible, mais je pourrais donner aussi des exemples. En fait, toutes les diététistes sont nutritionnistes, mais pas toutes les nutritionnistes sont diététistes.
D'accord.
En Colombie-Britannique, on peut suivre un cours d'une fin de semaine puis s'appeler nutritionniste. Mais les autres provinces ont d'autres lois. Les nutritionnistes est un titre protégé au Québec, par exemple. Il y a juste les diététistes qui peuvent s'appeler nutritionnistes au Québec.
D'accord.
Donc, entre autres, il faut beaucoup plus d'heures de formation pour être diététiste, plus de 5 années d'université au moins.
Ah oui, carrément.
Et un an de stage en milieu médical.
Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as suivi cette formation?
Oui. Les diététistes, en fait, traitent les gens qui sont vraiment malades, les gens qui ont les maladies rénales, le cancer, les crises cardiaques, tout ça, les syndromes du côlon irritable avec la nutrition entérale. C'est quoi la nutrition entérale avec un tube qui va à l'estomac, là?
Ah oui, d'accord.
La nutrition entérale, la nutrition parentérale, la nutrition qui va directement dans les veines. La dysphagie pour les gens qui ont de la misère à avaler. Quand on vieillit, des fois, on perd la capacité d'avaler de façon sécuritaire. Donc, les liquides ou la nourriture va dans les poumons.
Mm.
Alors, ça peut causer de la pneumonie. En tout cas, il y a plein de choses comme ça que les diététistes peuvent faire. Puis, les diététistes travaillent surtout en hôpital. Ah. Il n'y a pas de nutritionniste dans les hôpitaux.
D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes vraiment des membres à part entière du système de santé.
Oui.
Avec une formation vraiment, vraiment complète.
Fidélisée, oui.
D'accord. Okay.
Une autre différence aussi qui est importante, c'est que on a un ordre. Les diététistes ont un ordre, comme les physiothérapeutes, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Les nutritionnistes, eux, n'ont pas d'ordre en Colombie-Britannique. Donc, un ordre ou bien un collège, comme on dit ici, c'est pour s'assurer que les membres rencontrent toutes les exigences de compétences. Puis ces exigences-là sont très élevées. Pour qu'il y ait une protection du public.
D'accord.
Des standards, il faut suivre des cours de formation continue. On doit aussi avoir des assurances pour faute professionnelle. Donc,
okay.
Si quelqu'un fait une faute, on peut avoir des recours légaux. Mais si quelqu'un va aller voir un naturopathe, par exemple, et le naturopathe fait une grave erreur, ce qui arrive, comme par exemple dans le cas du bébé qui est mort d'une méningite, les parents sont allés voir un naturopathe. Mais les naturopathes n'ont pas d'assurance, donc il n'y avait aucun recours légal.
D'accord.
C'est ça la différence.
OK. Est-ce que les gens en santé peuvent consulter des diététistes ou il faut nécessairement se retrouver dans le milieu hospitalier et avoir un problème de santé, comme on dit?
Bien, en fait, si on a un problème avancé, souvent, là, c'est le système de la santé qui va prendre les patients en charge. Comme je disais, à l'hôpital, quand une personne a une crise cardiaque, ben, il se retrouve à l'hôpital et puis là, il y a un suivi. Quelqu'un qui a un diabète, bien là, il y a un suivi encore directement de l'hôpital. Si quelqu'un veut voir une diététiste en clinique privée, bien là, c'est aux frais de la personne. Il y a à peu près la moitié des assurances maladies qui couvrent les frais de diététiste, mais pas toutes les assurances. D'ailleurs, les diététistes travaillent là-dessus pour que de plus en plus d'assurances, compagnies d'assurance couvrent les frais de diététiste.
D'accord. Et toi, Claudia, tu évolues en pratique privée?
Oui, en fait, j'ai fait plusieurs années en soins de longue durée, mais maintenant, je fais de la clinique privée. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est pour les gens qui ont de l'anémie, de l'hypertension, pour stabiliser les taux sanguins de sucre, pour améliorer la santé cardiaque, admettons, ou les problèmes rénaux, les problèmes de cœliaque, ou pour les personnes qui sont végétaliens ou végétariens qui veulent s'assurer de manger d'une manière complète. Plein d'autres choses comme ça, je peux en dire plus, là, mais c'est un bon résumé.
D'accord. Donc, les gens se présentent à ta clinique et tu leur composes une diète optimale leur permettant de mettre toutes les chances de leur côté, quoi.
C'est ça.
D'accord. Est-ce que tu reçois des personnes âgées, des jeunes, des sportifs? Comment ça se répartit, tout ça?
Bien, en fait, ça dépend. Chaque diététiste a peut-être, je pourrais dire, une aire de spécialité, mais une diététiste générale va voir tous les âges et puis toutes les maladies avec lesquelles on est compétent, avec lequel on se sent compétent. Non, mais il n'y a pas de spécificité. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils veulent perdre du poids, ça arrive souvent, ou des gens qui veulent prendre du poids, des gens qui veulent se sentir mieux,
oui.
Avoir plus d'énergie, mieux dormir, plein de choses comme ça.
D'accord. Ben, parlons des enfants, parce que tu me disais hors micro tout à l'heure que tu avais écrit un livre pour enfants qui s'intitule « Carambole, la fée des aliments », en anglais « Stargold, the food fairy ». Alors, c'est un livre qui aborde le thème de la diète. Comment t'es venue l'idée de ce livre et de quoi parle cet ouvrage?
Mais en fait, c'était ma petite fille, Alexis, qui posait des problèmes. C'est drôle parce que pour une diététiste, c'est comme si j'avais un drôle de karma parce que ma petite, elle voulait juste manger du bacon et puis des bonbons.
D'accord.
Et puis, je cherchais un livre pour lui lire pourquoi je voulais lui donner des légumes au souper plutôt que des bonbons. Puis, elle comprenait pas pourquoi. Puis comme elle a un fort caractère, elle voulait savoir pourquoi. Puis, c'était souvent une discussion qui arrivait. Et puis, j'ai décidé, moi, d'écrire une histoire, de lui parler d'une histoire, puis c'est après ça que j'ai écrit l'histoire. C'est pour expliquer l'importance aux enfants. Comme je te disais tout à l'heure, Alexis, c'est que on veut pas, les parents devraient pas utiliser les termes santé, pas santé, bon, pas bon, parce que ça ajoute un côté émotif aux aliments, puis on devrait pas faire ça, parce que ça fait plus de problèmes à long terme. Ce qu'on veut, par exemple, c'est que ce soit le parent qui choisit ce que les enfants vont manger. C'est les parents qui choisissent qu'est-ce qui va sur la table et les enfants choisissent la quantité. Mais moi, avec ma petite, elle me demandait toujours pourquoi. Fait que là, j'ai décidé d'expliquer pourquoi en utilisant une métaphore d'une maison. Donc, quand les elfes construisent sa maison, en fait, qui est son corps, chaque groupe alimentaire représente une partie de la maison. Donc, chaque groupe alimentaire est important. C'est pas qu'il est bon ou pas bon, c'est qu'il est nécessaire, puis voici l'information. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre.
D'accord, OK. Et c'est un livre qui a été publié, qu'on peut se procurer sur Amazon et sur Internet à travers différentes librairies, n'est-ce pas?
Non, juste sur Amazon en ce moment.
Seulement sur Amazon actuellement,
oui.
OK. Est-ce que c'est une vocation d'écrire pour les enfants? Est-ce que tu comptes écrire d'autres ouvrages, toujours sur le thème de la diététique?
Oui, j'ai déjà écrit mon deuxième qui va sortir bientôt. C'est sur le diabète qui utilise la même métaphore de maison, mais pour expliquer aux diabétiques comment ça marche. Donc, dans le premier livre, quand un enfant mange un aliment qui provient du groupe des produits céréaliers, bien, ça donne de l'énergie ou des boîtes à lunch aux elfes qui construisent la maison. Et puis, ça donne des outils. Mais quand on est diabétique, bien, la boîte à lunch est barrée. Donc, on peut pas, les elfes ne peuvent pas ouvrir la boîte à lunch et puis avoir accès aux aliments dedans. Donc, les elfes deviennent fatigués. En tout cas, j'ai utilisé la même métaphore pour expliquer le diabète aux enfants.
Okay.
J'ai aussi écrit mon troisième livre qui est en train je suis en train de l'écrire sur les allergies.
OK. Et puis, j'imagine que tu as un complice sur le plan de l'illustration.
Oui. Son nom, c'est Chris Hamilton. Il habite aussi à Surrey Sud. Je l'ai trouvé un jour quand je suis venue chercher mon garçon à la garderie. Et puis, que Chris avait dessiné un requin sur la joue de mon petit garçon. Puis, le requin était tellement bon. C'est là que j'ai remarqué qu'il était bon en dessin. Puis, c'est là qu'on a connecté pour mes projets.
Wow, c'est formidable. On va accélérer un petit peu le temps qui nous est imparti file malheureusement. En terminant, j'aurais peut-être une question pour les adultes et puis quitte à on va essayer d'en coincer une pour les adultes. On parle souvent des boissons énergétiques et tu me disais hors d'antenne que c'est une question qui revient souvent. Mm-hmm. Alors les boissons énergétiques ont-elles leur utilité? Est-ce qu'elles remplissent un rôle? Est-ce que c'est souhaitable d'en prendre? Les sportifs devraient-ils en consommer?
Les sportifs peuvent en consommer parce qu'en fait, un sportif, c'est intéressant de savoir qu'un sportif peut perdre de une tasse et quart d'eau à 10 tasses d'eau par heure. Donc, on doit remettre toutes ces réserves-là d'eau dans le corps pour ne pas devenir déshydraté. Mais ça doit être de l'exercice intense et qui dure plus qu'une heure, donc comme un marathon, par exemple. Mm-hmm. Ou ça doit être de l'exercice qu'on fait dans un climat chaud et humide, comme en Floride. Aussi, quand on porte l'équipement lourd, quand mettons, joueur de hockey, par exemple. Ou quand on fait de l'exercice plusieurs fois pendant la journée, comme si on avait un tournoi de soccer. Là, on peut, c'est intéressant et utile d'avoir les boissons énergétiques. Mais on peut les faire nous-mêmes à la maison en utilisant du jus d'orange avec du jus de citron, un petit peu de sel. Il suffit de regarder les recettes sur Internet, il y en a plein. Une chose qui est importante, c'est quand on fait de l'exercice, pas boire des boissons gazeuses, du jus à pleine capacité ou des boissons au jus, parce que ces boissons-là vont remplacer l'eau qui est nécessaire pour l'hydratation. Ça dérange aussi l'estomac. Puis ces jus-là sont trop élevés en sucre, donc ils ne sont pas aussi bien absorbés.
D'accord, OK. Ben, c'est très éclairant. Dirais-tu, Claudia, que les gens s'alimentent plus, qu'ils sont mieux informés qu'avant?
Je dirais que c'est une question qui est difficile et longue. On pourrait en parler pendant un autre 15 minutes.
Oui, j'imagine.
En général, je dirais que les gens mangent moins bien qu'avant. Il y a beaucoup plus de problèmes de surnutrition que de sous-nutrition dans le monde. C'est en raison des produits achetés. Les gens cuisinent de moins en moins chez eux et les produits achetés sont de moins en moins de bonne qualité. C'est pas juste de faire pointer du doigt les compagnies qui produisent des produits qui sont pas de bonne qualité ou qui sont pas vraiment santé. C'est que nous, on achète ces produits-là. Donc, si le public devenait mieux éclairé ou mieux informé, le public pourrait faire des meilleures décisions quand ils choisissent leurs produits.
Oui.
Donc, par exemple, quand quelqu'un savait qu'il y a une demi-tasse de sucre dans un slushie, la personne n'achèterait pas. Donc, c'est à nous, les consommateurs, de lire les ingrédients, de lire la liste, d'être informés puis de faire des meilleurs choix.
Claudia, on te trouve comment sur Internet? Est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi si on est dans une autre province? Est-ce qu'on peut s'informer auprès de toi? Oui,
oui, oui. Oui. C'est claudia@truehealthnutrition.ca pour mon site de pratique privée. Mais si vous êtes intéressé à l'histoire de carambole, c'est lafeedesaliments.ca.
D'accord. Alors, c'est noté. Claudia Lemay, un grand merci pour ce passage à l'émission Sport et Santé Magazine.
Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est très agréable.
À bientôt.
À bientôt. Bye-bye.
Sport et Santé Magazine se termine sur cette interview de la diététicienne britanno-colombienne Claudia Lemay. Merci d'avoir passé cette édition hebdomadaire avec nous, en notre compagnie, où que vous soyez, en Saskatchewan, en Alberta, dans les territoires du Nord-Ouest ou encore en Colombie-Britannique. Alexis Gagnon au micro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, actifs et en santé. On se laisse sur une pièce de la formation Mimosa H intitulée The Wild Woman. À très bientôt.
CILS-FM 107.9, à la source de la culture francophone et de l'actualité communautaire à l'histoire.
Sure.